Là, je voudrais plus vous amener un petit peu du point de vue de la psychologie cognitive. Pour dire, voilà, en gros, ça correspond à ça à quatre grandes catégories de traitements, hein, de processus qui nous intéressent. Un qui est le processus d'engagement, un qui est tout ce qui est relève des processus attentionnels. Un autre qui la grande famille des processus qui concerne la réalisation de la tâche, et enfin une dernière grande famille qui est la famille des processus d'apprentissage eux-mêmes. Et si vous voulez, par rapport à la psychologie cognitive telle qu'elle était il y a 30 ou 40 ans, où quand on s'intéressait à l'engagement, on s'intéressait qu'à la motivation, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui que c'est une approche de l'engagement dans les apprentissages qui prend en compte les quatre niveaux. Et l'engagement dans les apprentissages est en gros beaucoup plus important que la motivation. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer. Et avant de faire un zoom sur chacun, je voudrais vous dire aussi qu'une chose qui nous préoccupe vraiment beaucoup en psychologie cognitive depuis une trentaine d'années, c'est le fait que cette approche à quatre niveaux nous a permis de montrer que les deux derniers niveaux, la réalisation de la tâche et la réussite de l'apprentissage, pouvaient être en concurrence. Si la tâche est trop exigeante, si la tâche est trop difficile, l'élève peut complètement s'engager dans la tâche. Et cet engagement dans la tâche va se faire au détriment de l'apprentissage. Je n'ai plus de ressources, je n'ai plus d'attention disponible pour apprendre, tellement je suis engagé dans la tâche. Donc maintenant, je vais développer sur l'importance de la motivation. Donc, chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous dire, voilà, on en est sur les processus, est-ce qu'il y a des choses nouvelles au cours des 20-25 dernières années? Et chaque fois, j'illustrerai par une expérimentation. Donc, nous, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe sur le terrain. On crée des situations complètement artificielles et on essaye de mettre à jour, d'expliquer des phénomènes. Par exemple, vous connaissez sans doute cette expérience célébrissime de Jean-Marc Montel et Pascal Huguet, dans lequel ils demandent à des élèves de réaliser une même tâche, hein, qui est reproduire ce machin-là. Certains élèves, ils leur disent, il s'agit de reproduire un dessin. D'autres, ils leur disent, il s'agit de reproduire une figure géométrique. Et selon la façon dont ils formulent la consigne, dessin ou géométrie, on n'obtient pas du tout la même performance. Dans cette expérience-là, ils ont proposé cette tâche à des élèves très faibles ou à des élèves très forts. Et quand ils disent dessin, les élèves faibles et les élèves, c'était vraiment des élèves très très faibles, hein, et des élèves forts ont exactement la même performance. Quand on leur dit géométrie, les élèves faibles sont très faibles, les élèves forts sont très forts. Et voilà, ça c'est typique des expérimentations qu'on fait pour essayer d'investiguer ce processus de la motivation qui ne peut pas se contenter de voir la motivation comme un simple processus de quoi j'ai envie et qu'est-ce qui a du sens pour moi. Comprendre la motivation, c'est aussi comprendre la façon dont les individus se représentent eux-mêmes, les systèmes de croyances qu'ils ont à propos d'eux-mêmes et les systèmes de croyances qu'ils ont à propos de leur environnement. C'est ça le grand apport, me semble-t-il, des dernières années, même si les bases des théories de la motivation, les systèmes attente valeur, c'est-à-dire, ben, en gros, hein, quelle est la signification de la tâche que l'enseignant me propose et quelles sont mes attentes de réussite par rapport à la tâche que l'enseignant me propose, hein, ces modèles-là de la motivation, ils existaient déjà il y a 35 ans, 30 ans, et la base n'a pas bougé. Là-dessus, la psychologie cognitive n'a pas fait énormément de progrès. Deuxième chose qui nous intéresse beaucoup, c'est l'importance de l'attention. Alors là, je vais essayer de faire un raccourci ultra rapide. Des collègues de Clermont-Ferrand ont voulu répliquer l'expérience dessin-géométrie. D'accord? Vous voyez, on habille différemment la tâche, mais c'est la même. Et ils ont obtenu un résultat contraire. Et donc, c'est un accident expérimental. Mais comme souvent, l'accident expérimental est encore plus intéressant que ce qui était attendu. Donc, le paradigme, hein, les élèves ont la même chose à faire, la consigne est différente. Ici, il s'agit d'une tâche de dictée, Mais à certains élèves, on leur raconte une histoire, je ne me souviens plus exactement, de photocopieuse qui est en panne, on est en art plastique et donc il faut prendre un texte, hein, parce qu'on n'a pas pu le photocopier. D'autres élèves, on leur dit que c'est une dictée, mais elle n'est pas notée. Et enfin, d'autres élèves, on leur dit que c'est une dictée et c'est noté. D'accord ? Donc vous attendez, vous voyez l'attente des chercheurs. Si on dit c'est un art plastique, ils sont tranquilles, ils vont performer. Si on commence à leur dire que c'est une dictée, ils vont baisser. Et si en plus on dit que c'est noté, ils vont baisser encore. Et c'est exactement l'inverse qu'ils obtiennent. Ici, c'est le nombre d'erreurs. C'est pas la performance, c'est la performance inverse. Hein, c'est le nombre d'erreurs. Et les collègues voient que, ben, effectivement, ce que tout le monde sait, mais encore une fois, fallait-il obtenir ce résultat qui, je le répète, est contraire à leurs attentes. Mais si vous dites pas aux élèves qu'il y a un enjeu d'orthographe dans une tâche, comment voulez-vous qu'ils focalisent leur attention sur l'orthographe ? Vous voyez ? Et donc, vous avez ici, c'est ça que je voulais vous montrer, hein, c'est que l'enjeu motivationnel avec le système de croyance sur soi et l'enjeu attentionnel à quoi il faut faire attention peuvent produire des effets contraires. Et ça, bien entendu, c'est ce que les enseignants voient 153 fois par jour dans une salle de classe. Et l'idée, c'est de dire, nous, qui n'enseignons pas, comment on se démerde avec ça ? Vous voyez, maintenant, il faut dire, ben, voilà, il va bien falloir produire une théorie, un modèle de l'apprentissage, comment les humains apprennent, en disant, voilà, le processus de motivation pour la tâche et le processus d'attention pour la tâche peuvent produire des effets contraires. Une autre chose qui me semble importante et qu'on a montré dans la discipline, c'est les effets des menaces du stéréotype, donc le plus célèbre, hein, la découverte. On est à Stanford, chez des très bons élèves, machin, etc. On donne à la moitié des étudiants 14 problèmes à résoudre, à l'autre moitié des étudiants, on leur dit, c'est les mêmes 14 problèmes à résoudre, mais on leur dit que c'est une mesure de l'intelligence. Dans la condition mesure de l'intelligence, vous voyez, les étudiants noirs, les étudiants blancs. Dans la condition 14 problèmes à résoudre, le même truc, donc ça c'est la... Et là on voit très bien, hein, lors du débriefing de l'expérience, c'est les étudiants qui sont dans la première condition, leur attention sur la tâche est limitée par le fait qu'ils gèrent, en même temps qu'ils ont réalisé la tâche, un stéréotype raciste. D'accord ? Et là, un stéréotype sexiste, c'est la même chose, les filles et les maths. Donc là, c'est réalisé à Toulouse, auprès de plusieurs centaines de gamins. Dans la condition, c'est la même truc, hein, que tout à l'heure, hein, la figure de rien, hein, que je vous ai présentée. Dans la condition géométrie, dans la condition c'est un exercice de mémoire, les garçons et les filles, les processus attentionnels des élèves subissent l'interférence de la gestion qu'ils doivent réaliser des stéréotypes racistes, sexistes, sociaux qui pèsent sur eux. Pendant que je suis en train de gérer des stéréotypes sociaux, je ne suis pas focalisé sur la tâche. Et là, c'est des centaines et des centaines de réplications de cet effet. C'est un des effets les plus solides de l'histoire de la psychologie cognitive que je vous montre là. Sur la réalisation de la tâche, l'idée, c'est moi qui me semble intéressante, c'est qu'on s'est amusé avec des collègues à dire, bon, on va faire la liste des tâches qu'on trouve dans les salles de classe. Vous voyez, on a fait les ergonomes un petit peu, quoi. Et voilà, c'est quoi qu'on demande aux élèves de faire. Et on a créé un système de catégories. Bon, peu importe. Hein, et après, on s'est dit, mais ces tâches-là, laquelle n'existait pas il y a 100 ans. En fait, on n'en a trouvé aucune. Bon, on a du mal avec l'innovation pédagogique, hein, mais c'est parce qu'en fait, c'est difficile, hein, d'être créatif dans ce domaine. Alors, on fait l'innovation pédagogique sur des machins, là, des supports, des trucs, quoi. Mais le cœur de l'activité d'apprentissage, hein, qui est que pour apprendre une connaissance, il faut que je réalise une activité, le cœur, on peine à être innovant. Hein. Ce qui a changé, c'est le temps, hein, qu'on accorde à telle tâche plutôt qu'à telle autre. C'est les équilibres entre les tâches qui ont changé, mais on peine vraiment. Et par ailleurs, ben, les travaux, ben, notamment les collègues de Paris 8, ont bien montré qu'effectivement, si le mode opératoire de la tâche n'est pas maîtrisée par l'élève, alors la tâche fonctionne comme un obstacle à l'apprentissage. Et par contre, il y a un papier très intéressant. Dans mon domaine, là où on galère énormément, c'est que depuis 40 ans, on essaie de répondre aux questions que les gens nous posent et de dire, ben, est-ce qu'il y a une tâche qui est meilleure que les autres? Vous voyez, est-ce qu'il y a des tâches qui sont plus efficaces pour apprendre? Et les résultats qu'on a dans ce domaine sont complètement pourris, quoi. On n'arrive pas. C'est super incohérent, la littérature dans le domaine. Jusqu'à ce que l'an dernier, un papier soit paru de deux collègues. Je suis mort de jalousie. Elles ont eu l'idée, toutes les deux, de dire, mais en fait, c'est pas l'analyse de la tâche uniquement qu'il faut prendre en considération, c'est l'analyse de la tâche et le mode d'engagement dans la tâche. Donc c'est quand même, par rapport au thème de la journée, j'ai trouvé ça très intéressant. Elles ont dit, si on reprend toute la littérature sur les tâches et qu'à chaque fois, on distingue quatre modes d'engagement dans la tâche, tout d'un coup, la littérature devient cohérente. Et donc elles ont distingué un mode qu'elles ont appelé passif. C'est sans doute pas un choix heureux, hein. Il y a un autre collègue, Richard Meyer, qui appelle ça plutôt actif, mais cognitivement. D'accord? Donc c'est, je suis engagé dans la tâche, je suis focalisé, je reçois des explications et j'accorde de l'attention à ces explications. Deuxième niveau, elles ont appelé actif. Donc là, les élèves, ils manipulent des supports, ils sélectionnent à l'intérieur de ces supports. Le troisième niveau, elles l'ont appelé le niveau constructif, là où les élèves vont générer de l'information, des interprétations. En gros, ils vont comprendre plus que ce qu'on leur explique. Ils vont faire des hypothèses, des inférences qui ne sont pas présentes dans ce qu'on leur, on leur donne. Et enfin, elles ont distingué un quatrième niveau interactif qui est que ce travail de niveau 3 est réalisé dans le cadre de confrontation, etc. Et ce qu'elle montre, c'est que si on reprend la littérature dans le domaine, on voit là un truc cohérent qui est, premièrement, n'importe quelle tâche de mon tableau précédent peut être réalisée au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Même une tâche de lecture, même une tâche écouter un cours magistral peut être pris aux quatre niveaux. Et que quand on a toutes choses égales par ailleurs, hein, c'est des élèves de même niveau, il y a la même connaissance à apprendre et c'est la même tâche, alors on obtient le 4 qui marche mieux que le 3 qui marche mieux que le 2, et le 2 qui marche mieux que le 1. Bien entendu, toujours avec la même réserve, quand les élèves sont dans une tâche qui est à leur portée, si monter en niveau d'engagement, c'est juste rendre la tâche inaccessible, alors on obtient le résultat inverse. Ça va, cette idée-là ? Je la trouve absolument lumineuse. C'est, je pense, le seul papier vraiment intéressant au cours écrit au cours des 10 dernières années dans mon domaine. Le dernier point, c'est l'importance des processus cognitifs. Et là, je voulais faire un clin d'œil parce que je me dis, depuis la fin des années 80, on a complètement changé, je pense, notre façon de voir. Et pourtant, dès ce bouquin d'Alfred Binet, 1894, on avait tous les éléments sous les yeux, mais on ne les a pas vus, y compris Binet. Ce qui aujourd'hui est communément accepté dans ma discipline, c'est que tout le monde peut apprendre à un très haut niveau. Par exemple, dans ce petit bouquin, Binet compare des grands calculateurs, vous savez, des gens qui ont un don pour le calcul, et il essaie de comprendre les mécanismes de production de cette performance. Et son idée, qui est plutôt de les comparer des étudiants de psycho. Vous savez, nous, les psychologues, on utilise toujours comme groupe contrôle des étudiants de psycho. Il a une idée un peu plus maligne, et il va les comparer à des caissiers du grand marché. Et donc, il leur fait faire des tâches. Donc ici, c'est la multiplication, vous voyez. Donc, et ce qu'on note dans le tableau de résultats, c'est le temps mis pour faire la multiplication. Par exemple, vous avez, pour faire 638 multiplié par 823, le premier calculateur met 6 secondes, le deuxième 56 secondes, le premier caissier 4 secondes et le deuxième caissier 12 secondes. Ça, aujourd'hui, on le sait. Hein. Et d'ailleurs, les caissiers, ce qui est marrant, c'est que c'est à l'époque qu'on ne faisait pas différencier entre la psychologie clinique et la psychologie cognitive. Donc, il y a des entretiens cliniques. Et les quatre caissiers, les trois caissiers qu'il a vus, lui ont dit, vous savez, il nous a fallu 10 ans pour arriver à ce niveau. Hein, c'est des gosses, ils sont sortis de l'école à 12 ans, ils ont été embauchés. Au bout d'un moment, ils sont allés à la caisse. Et ils disent, voilà, au bout de 10 ans, je suis... Aujourd'hui, on le sait, le meilleur prédicteur de la performance dans le domaine des apprentissages, c'est le temps passé à apprendre et à faire. Conclusion. Je crois, j'espère vous avoir convaincu de vous intéresser à cette approche en quatre niveaux hein, de l'engagement dans les apprentissages. Le niveau de la motivation, le niveau de l'attention, le niveau de la tâche et le niveau de l'apprentissage. Et finalement, quand on conçoit une situation d'enseignement, on conçoit à ces quatre niveaux. Hein, on conçoit pour réussir la motivation, pour réussir l'attention, pour réussir la tâche et pour réussir l'apprentissage de savoir.